Bonjour, nous sommes les élèves du collège Clotaire-Baugeoin de Tourotte en partenariat avec l'espace culturel de Tourotte et Radiographie. Nous avons travaillé sur l'interview radio. À cette occasion, nous avons interviewé Jérôme Himard, Olivier Gauthier, Benjamin Flao de la compagnie du Mantois pour nous présenter l'adaptation du livre de Richard White, Black Boy, en concert-spectacle dessiné. Bonjour, pouvez-vous nous présenter l'histoire de Black Boy à nos auditeurs ?
Bonjour à tous. En quelques mots, Black Boy est peut-être le premier roman afro-américain, c'est-à-dire écrit par un noir en 1945. C'est simplement une autobiographie qui raconte sa vie depuis l'âge de 5 ans jusqu'à 17, de sa vie dans le sud profond du Mississippi. Et puis jusqu'à son départ vers le nord, son enfance très compliquée, sous le double coup, on va dire, d'un asservissement par sa famille, un milieu très religieux, évangéliste, avec un poids de la religion, et puis bien sûr la ségrégation raciale des Blancs contre les Noirs.
Que représente l'auteur du livre pour vous ?
Il ne faut pas que je sois le seul à répondre, mais en tout cas... Quand j'ai imaginé de faire cette adaptation et de le mettre en spectacle avec Olivier et Benjamin, c'était l'idée aussi de parler d'un texte d'une grande force, parce que ça a été le premier à faire ça. Et puis, je ne sais pas si on doit dire heureusement ou malheureusement, le texte conserve toujours une grande actualité par rapport à ce qu'on peut voir dans le monde.
Comment vous êtes-vous rencontrés et pourquoi avoir voulu travailler ensemble ?
Alors, je réponds encore un tout petit peu et après je passe la parole à mes camarades. L'idée de la rencontre vient initialement d'un festival qui s'appelle Banlieue Blues et avec un ami, eux, de la Brusse, on avait eu l'idée d'adapter ce roman parce que notre compagnie est plus axée sur le théâtre et que Banlieue Blues, Festival Blues sur scène organise un festival de blues et on s'est dit pourquoi pas, comme on était très conjoints, on travaillait dans les mêmes lieux, faire une passerelle entre l'univers du blues, de la musique et l'univers du texte et du théâtre. Ça c'est le premier temps, c'est comme ça que j'ai rencontré Olivier, il vous dira. Et puis dans ma tête trottait l'idée d'avoir un dessinateur talentueux qui dessine en direct et j'avais dire qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Benjamin Flao qui était pas mauvais là-dedans et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
Quel est votre meilleur souvenir ?
New York 63 ? Le meilleur souvenir pour moi, la première, ouais, c'était super, c'était dans un petit Magic Mirror.
Qu'est-ce que c'est que le Magic Mirror ?
C'est comme une grande yourte, comme une grande, comme une grande yourte. C'est un lieu mobile qu'on peut monter et démonter et qui ressemble un petit peu à, ouais, un peu comme un chapiteau de cirque, ouais, en dur, voilà. Et c'était l'épreuve du feu, quoi. Et donc l'épreuve du feu, c'est toujours hyper intéressant parce que on se rencontre sur scène, on voit les premières réactions. On est encore en train de... Et puis on a un petit peu à se prouver aussi que ça marche, quoi. Donc on essaye chacun de donner le meilleur, quoi. Donc c'est forcément super. Alors, on ne sait pas s'il va y avoir des applaudissements, mais alors, comme ils sont arrivés, ça a créé un bon souvenir, effectivement.
Dans le livre, il y a deux points de vue. Pourquoi avez-vous choisi de l'aborder sous l'angle de l'émancipation et non celui de la brutalité ?
Malgré la brutalité dont il parle et qui relate en fait son enfance et qui était réelle en ces temps-là, finalement ce qui ressort du livre, au-delà de ça, qui est vraiment choquant en première page, c'est vraiment l'émancipation que lui va s'apporter à lui-même. Et c'est vraiment ça qui ressort du livre, c'est vraiment ce message de liberté universelle, malgré la douleur et la ségrégation des temps dans lesquels se passe le livre. Mais c'est parce que c'est ce qui ressort le plus à la fin du livre, c'est l'émancipation et la liberté, plus que la douleur que finalement il a vaincue.
Et si je puis un tout petit complément, c'est exactement ça. C'est effectivement pour sortir de la brutalité physique, etc., de l'agression perpétuel dont il est victime, c'est aussi quelqu'un qui se sauve d'abord par la lecture, et puis comme nous sommes dans une médiathèque, ça fait du bien. Ça commence par là, l'histoire de l'émancipation de Richard Wright, et puis ça se poursuit, parce que ne fait pas tout le monde, puisqu'il en avait le talent, l'écriture. Hein, et l'écriture du roman est la manière aussi de se... Et l'écriture ensuite, voilà.
Alors, êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste ?
Moi, de nature, je suis optimiste. Voilà, je sais que souvent, les choses nous font peut-être penser l'inverse, mais donc, voilà, j'aurais tendance à répondre optimiste malgré tout. Là, ça en est encore une résultante, finalement. Au-delà de la douleur et de la difficulté de la vie, on peut toujours réussir à s'élever et à trouver la lumière dans les endroits les plus sombres. Donc oui, l'optimisme, ouais. De la nuit vient toujours la lumière, cette fameuse Exactement. Phrase qui est la phrase finale en plus
de l'adaptation.
Ouais, du spectacle.
Quel sentiment éprouvez-vous sur scène ?
Curieusement, c'est bon. De toute façon, il faut, c'est une très bonne question parce que c'est un spectacle dans lequel il faut être vraiment à 100%. J'ai senti une fois un moment où j'ai pu être un tout petit peu moins investi. Je disais que ça ronronnait un petit peu parce que peut-être j'étais fatigué ou quoi, mais en fait je me sens toujours hyper investi à défendre ce texte, donc en dessin pour ma part, et j'écoute. Comme je suis concentré sur mon dessin, mes oreilles sont vraiment ouvertes à ce qui se passe et à ce que disent mes camarades, que ce soit en musique ou en texte. Et j'éprouve j'éprouve toujours, quand il y a des choses tristes, j'éprouve de la tristesse et j'essaye de la... Je suis un canal, quoi, donc j'essaye d'être canal de ça pour que ça passe dans le dessin, évidemment. Et c'est important d'être poreux à ces émotions parce que c'est ça qui passe, quoi. Voilà. C'est primordial. On peut pas faire ça de manière légère. On parlait tout à l'heure de Strange Fruit, le morceau que vous nous avez écouté tout à l'heure sur scène. Et on parlait de Billie Holiday qui chantait ce morceau et Olivier disait que quelquefois elle se demandait si elle allait le chanter ou pas. Alors pour diverses raisons, mais aussi parce que c'est un morceau qui demande d'être à 100% investi dans ce qu'on dit. C'est quelque chose qui est très profond, qui est très puissant, qu'elle va chercher. Ça peut pas être léger. Voilà. Et c'est pareil. Là, c'est pareil. On porte un texte, on porte une parole et on a besoin d'être vraiment d'être vraiment sincère, quoi, dans ce qu'on donne.
Alors pour moi, c'est des sentiments un petit peu partagés. Alors il y a d'abord une fierté de défendre ce spectacle, parce que effectivement, malgré qu'il ait été écrit en 1945, c'est encore un livre qui est de rigueur. Je trouve qu'il y a son importance et son actualité aujourd'hui. Après, il y a un autre sentiment qui est un petit peu plus compliqué. Alors c'est pas vraiment de la gêne, mais c'est plutôt de la pudeur en tant que personne blanche. On parle d'une œuvre écrite par un noir américain. Et donc voilà, il y a un mélange de fierté, de pudeur. On essaye vraiment justement d'être dans une justesse, parce qu'on ne veut pas que ce soit interprété par certaines personnes du public. C'est souvent un sujet qu'on a entre nous après le spectacle, de rediscuter de ça, de notre manière de se positionner par rapport à ce texte, que ce soit dans le dessin, la lecture ou la musique. Après, pour moi, plus personnellement et de manière plus naturelle, donc moi je suis musicien dans ma vie et j'ai toujours fait du blues, j'en fais encore. C'est un milieu et une culture qui m'a toujours intéressé, marqué, et encore à l'écoute de votre spectacle tout à l'heure, on en a versé une larme, ou en tout cas été vraiment touché, parce que c'est bizarrement, sans que je puisse expliquer, des douleurs et des luttes que moi j'ai compris très tôt et qui m'ont marqué très tôt. Donc voilà, c'est assez mélangé comme sentiment.
Vous utilisez un instrument particulier. Expliquez-nous ce qu'est une guitare lap steel.
Alors, une guitare lap steel, c'est tout simplement une guitare qui se joue à plat sur les genoux. Donc, c'est une manière qui a été inventée au début du... il y a longtemps, c'est une manière de jouer, pardon, qui vient d'Hawaï. La jolie histoire veut que là-bas, même les hommes ont des cheveux longs. Et en fait, un guitariste qui avait un peigne en os qui attachait ses cheveux était en train de jouer de la guitare. Le peigne est venu glisser de sa chevelure et est tombé sur les cordes et a produit ce fameux son en glissant d'eau. Et de là, la jolie histoire raconte qu'il aurait inventé cette manière de jouer. Voilà, donc ils ont après créé les instruments pour leur permettre de jouer de cette manière-là. Donc c'est effectivement parti d'une guitare. lesquels on rehausse un petit peu les cordes et où on vient plaquer un objet soit en verre, soit en acier et qui vient reproduire ce fameux son en glissando. Voilà.
Pourquoi l'utiliser de cette façon ?
Parce que c'est la manière dont je dois l'utiliser. Je ne peux pas, avec cet instrument, l'utiliser d'une autre manière. C'est effectivement une guitare, mais c'est une guitare modifiée. Donc je ne pourrais pas la jouer comme une guitare traditionnelle.
Pourquoi avoir mis un dessinateur sur scène ?
Bon, moi, je suis le dessinateur. Alors, on m'a mis sur scène, voilà. j'étais bien tranquille dans mon atelier, quand tout à coup, un homme est rentré. Il me dit, non, toi ! T'aimerais pas venir avec moi sur scène ? Alors bon, bah, je suis arrivé. Et non, mais c'est vrai que normalement, les dessinateurs, ça reste bien sagement dans leur atelier. Et voilà. Et bien parce que en fait, on a créé des choses maintenant qui s'appellent des vidéoprojecteurs et des caméras. Et on peut relier maintenant une caméra. Je dis maintenant, ça fait déjà 25 ans, mais avant, il n'y avait pas, c'était compliqué. Et c'était très compliqué de pouvoir dessiner sur scène. Et dessiner sur scène, alors ça s'apparente... parfois plus à de la danse ou à quelque chose. Enfin, c'est toujours la multiplicité du dessin, quoi. C'est-à-dire que il y a à la fois du fond, de la forme, du mouvement. C'est à la fois de l'écriture et à la fois c'est de la danse. Voilà. Et c'est assez rare de voir des gens dessiner, je crois. En tout cas. Bon, peut-être un peu de plus en plus, quoi, mais bon, là pour ce spectacle, il y a vraiment l'idée de narration, de venir soutenir le texte, la musique, etc. Voilà, c'est surtout ça au départ, en fait. Voilà.
Oui, et puis au même niveau que la musique, finalement, on aurait pu poser la question aussi aux musiciens, finalement, pourquoi le dessin et pourquoi la musique ? Ben, trouver des armes pour venir appuyer ce texte, pour venir expliquer ce texte, pour le montrer sous d'autres formes qui ne diffèrent absolument pas de ce que lui dit. Au contraire, il faut vraiment être dans ses mots et dans sa manière de lire le texte, mais c'est vraiment pour le sublimer, pour le présenter autrement. Voilà.
Pourquoi le choix de l'encre de Chine ?
Parce que c'est un outil fabuleux qui répond bien à certaines... Déjà, c'est quelque chose que moi, j'utilise par ailleurs dans mon travail. Mais c'est une encre, c'est une matière qui répond vraiment au mélange avec l'eau. Et comme sur scène, j'utilise beaucoup l'eau, comme conducteur, c'est-à-dire que quelquefois, j'essaie de faire bouger l'image et la manière que j'ai trouvé de la faire bouger, c'est de mettre de l'eau et de l'encre. C'est-à-dire que là où il y a de l'eau, l'encre va et elle s'échappe toute seule. Et donc ça fait une espèce de réaction chimique qui travaille toute seule et c'est très... C'est comme, par exemple, une traînée de son, hein, comme on peut envoyer un son et puis il y a une réverb derrière. C'est un petit peu la même chose. On ne sait pas exactement où elle va, mais on lui donne l'impulse et elle y va. Voilà. Donc, ça me permet de faire du dessin animé, un peu. Enfin, de faire de l'animation, quelque part. Voilà.
Qu'avez-vous fait comme étude pour faire ce métier, pour faire de la scène ?
Eh ben, moi, en dessin, j'ai fait des études de dessin. J'ai surtout appris un peu tout seul. Et puis j'ai fait beaucoup de rue aussi. J'ai fait beaucoup de caricatures dans la rue. Ça m'a beaucoup appris. Et puis sinon, j'ai aussi fait des écoles de dessin qui m'ont appris, mais moins. Moins que la rue.
Ça va être un petit peu la même chose que Benjamin sans les écoles. Donc ça a été la passion et la rue, mes lieux d'apprentissage principaux.
Oui, bah, quant à moi, non, je ne viens pas de la rue, en tout cas en termes de pratique artistique. Non, moi au départ j'ai un cursus universitaire, j'ai même été professeur de philosophie avant de plier bagages et de me consacrer au théâtre. J'ai fait une école de théâtre et puis après, voilà, je suis devenu comédien, metteur en scène. J'ai travaillé longtemps avec une compagnie, d'ailleurs celle qui présente le spectacle. Voilà.
Vous conseillerez quel genre d'études pour des collégiens après le brevet pour devenir comédien ?
Bah écoutez, S'il y a une formation, d'abord, après le brevet, je pense que toutes les écoles un peu sérieuses de théâtre, avant les concours nationaux, on va dire, hein, que sont le conservatoire, la rue Blanche et tout ça, ce sont toujours des écoles qui sont ouvertes uniquement pour des gens de plus de 18 ans, en général. Ça n'empêche pas de faire des ateliers théâtre, de suivre des cours dans des conservatoires municipaux et tout ça. Dès que vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Ça va de l'école avec les ateliers proposés dans le milieu scolaire par des intervenants extérieurs, des artistes de danse, de théâtre qui viennent. Mais voilà, c'est peut-être après le bac, sinon. Mais ça n'empêche pas de nourrir cette passion dès que vous le voulez, quoi. Après, c'est autre chose de s'engranger dans ce cursus-là, mais c'est compatible avec plein de choses.
Le thème de la ségrégation vous touche-t-il ?
Oui, je crois que les trois. Je crois qu'on n'aurait pas fait ce spectacle quand j'ai demandé à Olivier et à Benjamin de le faire. Je crois qu'ils n'auraient pas dit oui s'il n'y avait pas eu ce fond-là, entre autres questions qui les touchent, et où on se retrouve peut-être tous les trois. Il y a celle-ci, elle nous est importante. Et puis ce que disait tout à l'heure, je crois que c'est Olivier qui a parlé de pudeur. C'était un peu bizarre, comme blanc, pour le coup, de s'emparer d'un texte qui fait fond quand même sur toute la souffrance d'un peuple noir, etc. Et qui sommes-nous, nous, pour pouvoir parler pour ces gens-là ? Alors bien évidemment, je pense qu'il y a un universel qui traverse le texte qui fait que, qu'on soit noir ou blanc ou jaune ou vert, on peut quand même faire passer cette histoire, mais ça c'était quelque chose de très important. D'ailleurs, le premier titre que j'avais donné au spectacle, je l'avais appelé en référence un peu au bluesman ou au jazzman. Souvent, quand ils rendent un hommage à quelqu'un, en anglais c'est tribute to. C'est un grand classique, ça, par exemple, tribute to Dizzy Gillespie, en reprenant ce qu'on appelle des standards, des thèmes. Et là, je l'avais appelé White Man Tribute to Black Boy, quoi. Hein, voilà. Comment trois blancs peuvent finalement rendre hommage à Black Boy, bien sûr, représentant de la communauté noire.
Avez-vous d'autres projets en cours ?
Oui, moi j'en ai pas mal. Mais en fait, je suis auteur de bande dessinée à côté, donc je fais aussi des livres. Donc j'ai d'autres projets de livres, de bande dessinée. Donc le prochain, c'est sur des bandits d'honneur roumains, voilà, qu'on appelle des haïdouks. J'ai aussi des projets d'autres spectacles dessinés avec d'autres personnes, voilà, avec d'autres groupes.
On a en fait un petit peu tous les trois d'autres activités. On doit en être à peu près à la 15e représentation. Au moment quand l'opportunité s'est faite de créer ce spectacle, ça devait être sur un one shot ou sur deux trois dates dans le cadre d'un festival, du festival de blues sur scène d'ailleurs, qui était copartenaire pour la création en tout cas du spectacle. Et donc on n'avait pas dans l'idée que les choses continuent et que finalement elles prennent cette ampleur et que le spectacle soit demandé à tourner comme normalement il devrait le faire. Voilà, donc on a tous un petit peu une autre activité qu'on avait avant. Donc moi j'ai ma carrière entre guillemets personnelle avec mes albums de musique.
Tu viens d'en sortir aussi.
D'autres spectacles, notamment un album qui vient de sortir. Bien sûr, Benjamin, qui était dessinateur de BD, qui continue, qui a d'autres projets.
Essence, que tu as sorti, est sorti quand ? Oui, il y a un an. Donc, son dernier, c'était Essence.
Et Jérôme, oui. Jérôme, qui lui aussi, bien sûr, travaille sur d'autres pièces avec d'autres collaborateurs dans son activité théâtrale.
Hier soir, d'ailleurs, j'avais un autre spectacle qui jouait, dont j'ai fait la mise en scène, qui est La guerre de Troie, en moins de deux. Voilà, parce qu'on raconte toute la guerre de Troie en 1h30. Voilà. Et mais là, il y a 7 comédiens sur scène, un pianiste. Voilà. Et il tournait hier soir.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
I think walking is the best way to learn. world burning and the curtain, is falling. In the curtain is falling. Hey little sister, what you gonna do? But I'm so tired of fighting against you. You like a puppet dance with the bong, the movie and the curtain. No one can use